Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle série de podcasts de l'ESSEC, Be in the Know. Nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé, le rythme des mutations ne cesse d'accélérer et donc afin de nous adapter, voire devancer les tendances et les évolutions de demain, nous avons l'obligation de nous tenir informés, d'apprendre de façon quotidienne si nous ne souhaitons pas nous retrouver à l'écart des événements, à côté donc de nos compétences, car on sait que le savoir se périme très vite.
Apprendre tout au long de notre vie, nous voilà dans la peau d'un médecin qui essaye de ne pas tuer ses patients. Si nous voulons rester des experts pointus de notre domaine, nous devons accepter d'apprendre tout au long de notre vie. Nous devons accepter que nous ne connaissons pas tout. Nous devons nous ouvrir aux autres, au monde et embrasser la curiosité. Cela paraît évident.
Alors, on est amené à se poser beaucoup de questions. Est-ce que cela va de soi ? Est-on trop vieux pour retourner à l'école, pour se remettre en question, pour apprendre ? Est-on devenu trop vieux pour apprendre à apprendre ? Qu'en est-il de réapprendre à apprendre ? Quelle est la subtilité entre les deux ?
Dans notre nouveau podcast, Be in the Know, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Et pour ce faire, nous avons invité Olivier Fourcadet, professeur de management stratégique, et Laurent Bibard, professeur de philosophie et management. Bonjour Laurent, bonjour Olivier, merci à vous d'être venu.
Bonjour à toutes les deux, merci de cette invitation.
Alors, pour poser le sujet, Laurent, que pouvez-vous nous dire sur la notion de réapprendre à apprendre ?
Avant de venir à cette notion, je pense qu'il est important de parler non pas seulement d'informations qu'on doit acquérir tout le temps, mais de capacité à discerner les signaux faibles de ce qui change. Vous avez très bien dit que la réalité évolue énormément, et l'un des enjeux, ça n'est pas seulement d'intégrer, d'ingérer une information, mais c'est d'être en posture d'acceptation permanente de ce qu'on ne connaît pas encore. Et ça veut dire du coup d'être poreux à des choses qu'on peut ne pas comprendre. Quand on a une information, c'est qu'elle est déjà sensée, déjà pleine de sens. Tandis que lorsque arrive le bruit quotidien du monde, pour chacune et chacun de nous, et pour les organisations, et qu'il nous faut discerner entre ce qui va faire sens et ce qui va rester insignifiant, ça c'est l'essentiel. Et je dirais volontiers, mon collègue et ami Olivier dira tout à l'heure ce qu'il en pense, mais le processus d'apprentissage est un tri, et d'abord un tri qui fabrique du sens. Nous sommes tout le temps en train de faire ça, même inconsciemment. Et du coup, la notion, je viens à votre question plus explicitement, de réapprentissage suppose qu'on a toujours déjà appris quelque chose. On est tous éduqués. On a tous reçu des tonnes d'informations quand on était petit. On a appris à s'orienter dans le monde. On est éduqué, on sait faire les choses. Et puis arrive un moment où ce qu'on savait déjà faire ne fonctionne plus. Ça n'est plus, vous l'avez très bien dit en présentant, vous-même et Maria, ça n'est plus conforme à l'environnement. On est dans des habitudes anciennes et il faut accepter que ce qu'on savait ne fonctionne plus. Et à partir du moment où on accepte que ce qu'on savait peut ne plus fonctionner, on reste ouvert à ce qu'on ne connaît pas. Donc en gros, réapprendre suppose de savoir désapprendre, d'accepter qu'on peut ne pas savoir et que ça n'est pas grave. Et ce processus-là, en fait, là nous l'explicitons, mais il fait partie de la vie quotidienne. Vous et moi, on est constamment en train de trier ce qui fait sens de ce qui ne fait pas sens, et d'inventer du sens à partir de choses, souvent au premier abord, peu connues ou incompréhensibles.
Je vais poursuivre, je crois que Laurent a bien placé le débat. Cependant, maintenant, je vais avoir plutôt une observation naturelle de nos contemporains. Laurent a dit que nous étions en situation d'apprendre. Cependant, ce que l'on constate, c'est que, bien que l'on puisse avoir des signaux, cette capacité à donner du sens, il faut l'installer. Je ne pense pas qu'elle soit une dotation de chacun d'entre nous. Et donc pour moi, apprendre, c'est déjà créer cette capacité. Ce que je vois, c'est que cette capacité, elle commence à émerger lorsqu'il y a une certaine forme d'inquiétude. Mais pas toujours lorsqu'il y a une certaine forme d'inquiétude. L'inquiétude, elle peut se traduire par deux réponses qui sont substantiellement différentes, à mon sens. La première, c'est le phénomène que décrit Laurent. Je suis surpris. je deviens inquiet. Et donc j'essaie de redonner à ces événements, à ces faits, une certaine forme de compréhension. J'essaie de leur donner du sens. Et à partir de ce sens, je vais rentrer dans un processus peut-être plus complexe pour identifier des nouvelles compétences que je vais avoir besoin d'acquérir. Et puis, à l'opposé de ce phénomène qui est très, très positif et que l'on appelle tous de nos voeux, il y a un phénomène que je dirais de rétractation dans sa coquille, où finalement, on essaie de défendre souvent des positions qui sont des positions anciennes et que je vais qualifier d'obsolètes et qui ne vont pas nous amener bien loin. Ce qui va créer une anxiété et un renfermement encore plus important. Donc le point de bifurcation, en quelque sorte, c'est comment on peut ouvrir le champ, la direction, qui est de donner véritablement d'une information ce sens, cette inquiétude, et partir dans cette quête d'acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles façons de comprendre le monde.
Oui, et donc d'après vous, en fait, si je comprends assez bien, est-ce qu'on a, donc il y aurait certaines personnes qui auraient tendance à rester sur leurs acquis. Pourquoi ce problème-là? Pourquoi ne pas effectivement chercher à apprendre ou à réapprendre à apprendre? Étant donné que je pense qu'on est tous capables d'identifier le problème, d'identifier effectivement les choses qui clochent ou les compétences qu'on n'a pas. Mais donc, il y a ces personnes-là qui décident d'apprendre ou de réapprendre à apprendre. Il y a toutes celles qui, effectivement, préfèrent rester sur leurs acquis.
C'est un constat. Après, on peut tenter des hypothèses pour répondre à cette question. Des hypothèses qui seraient peut-être liées à notre histoire d'apprenant, en quelque sorte. On a la chance à l'ESSEC d'avoir des étudiants qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, donc on est souvent confronté à des parcours où l'apprentissage n'a pas été réalisé de la même façon. Où l'apprentissage a été parfois, je dirais, plus du dressage, hein, qu'un véritable apprentissage. Sans revenir dans l'histoire, mais hier je l'écoutais plutôt parce qu'en fait je la lisais pas, c'est une autre façon d'apprendre, une biographie de David Einstein qui considérait que ses premières années, alors qu'il était en Allemagne, étaient un dressage. Si on est dressé, finalement on n'a pas conserver une certaine forme d'autonomie. Et on attend à être toujours livré à ce dressage. Bien sûr, avec la maturité, le dressage devient plus souple. Hein. Mais je pense qu'il y a ce vecteur de rendre autonome dans l'apprentissage qui, s'il n'est pas acquis relativement tôt, peut être beaucoup plus difficile à acquérir. Le deuxième élément est aussi un élément d'observation. C'est avions-nous besoin de remettre autant que cela nos connaissances en jeu dans le passé? Souvent, ce que je dis, et je trouve que mon métier a beaucoup changé, pas en tant qu'enseignant, mais plutôt en tant que stratège. Il y a 25 ans, j'avais l'impression que la route était droite. C'était une belle autoroute. Il y avait de temps en temps un petit peu de brouillard. Mais globalement, on conduisait dans des environnements où on avait la certitude d'avoir des certitudes. Aujourd'hui, la route devant nous, le futur, tourne. Il y a des bifurcations, on ne sait plus quelle voie emprunter. Il y a beaucoup de brouillard et on doit avoir la certitude de notre doute, en quelque sorte.
Alors, Laurent, il est vrai qu'apprendre peut remettre en cause les apprentissages antérieurs et bousculer les gestes et les pensées acquis. Comment peut-on gérer ces tensions si vous apprenez alors que si votre entourage professionnel vous apprend alors que vous décidez de reposer sur ces acquis? Il y a quand même un déséquilibre relationnel important qui peut devenir problématique à gérer par le manager, non?
Je trouve important de prolonger la métaphore utilisée par Olivier en citant un poème du poète espagnol Antonio Machado, que Edgar Morin apprécie particulièrement, en disant que le chemin se fait en marchant. Et on est peut-être dans un contexte où le chemin se fait de plus en plus en marchant. Il n'y a pas de chemin qui est tracé à l'avance. Et ça pose une réelle difficulté, mais d'autant plus qu'il se passe ceci. Moi, j'ajouterais volontiers une hypothèse à ce qui a été dit par Olivier tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles on ne veut pas apprendre. Je ne crois pas que ce soit délibéré de ne pas vouloir apprendre. Je pense qu'on peut dire que la capacité d'apprendre, elle est fondamentalement humaine, c'est l'humanité même. Mais en même temps, quand on apprend des compétences, pensons simplement à la vie de tous les jours au travail, on apprend à faire des choses. Et au fur et à mesure qu'on apprend à faire des choses, qu'on les fait, elles nous deviennent tellement évidentes qu'elles nous deviennent complètement inconscientes. Et heureusement, c'est-à-dire que nous savons, n'importe qui des humains, tôt ou tard, sur différents plans de compétences, on sait faire des tas de choses, et un des signes qu'on sait les faire, c'est qu'on n'a plus besoin d'y penser pour les faire. Conduire une voiture pour des gens qui ont le permis, écrire un courrier pour quelqu'un qui est très habitué, dont c'est le métier, etc. Nous faisons plein de choses inconsciemment. Et du coup, quand on veut réapprendre, et qu'on doit désapprendre pour ça, ça veut dire qu'il faut désapprendre des choses qui sont devenues totalement évidentes. Et ça n'est pas de manière délibérée qu'on s'arc-boute pour dire « non, je ne veux pas ». C'est qu'on est obligé parfois, s'il faut vraiment réapprendre, mettre en doute des choses complètement évidentes qui faisaient la base de la vie. Et là, j'en viens à la question de l'inquiétude dont parlait Olivier. C'est parfois quasiment de l'angoisse. Mmh. Et du coup, ce qui est capital d'arriver à faire, c'est d'enseigner une posture qui ne serait pas celle du dressage, mais qui serait une posture de disponibilité à ce qu'on ne connaît pas. Et ça n'est pas grave. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et ça n'est pas grave. Si on arrivait tous à s'en convaincre, le fait que le chemin n'existe pas ne serait pas du tout un problème.
Vous remettez en cause l'idée que les automatismes relèvent de la compétence.
Ah non, je précise bien que nos compétences, elles ne sont efficaces que lorsqu'elles deviennent un automatisme.
D'accord.
Mais l'ennui, c'est que c'est en même temps le problème. C'est à la fois la solution, c'est-à-dire, je sais que je sais conduire une voiture si je n'ai pas besoin d'y penser pour le faire, mais en même temps, comme je ne réfléchis pas, et que chaque jour, par exemple, c'est un exemple classique de la prévention routière, je passe à un carrefour, et comme il n'y a jamais personne, je finis par m'habituer à ce qu'il n'y ait jamais personne. Et du coup, je ne vois même plus le carrefour tellement chaque jour il n'y a personne, et un jour il y a quelqu'un. Eh bien, l'exemple est typiquement ça, c'est-à-dire, on s'habitue à faire quelque chose, on le fait de mieux en mieux inconsciemment, et en même temps, parce que c'est inconsciemment, on est susceptible de faire d'énormes erreurs parce qu'on ne se réveille pas en permanence. Donc l'idée, c'est de donner aux gens la capacité d'être en tension sur quelque chose qui est très difficile. Et on revient au problème du management, c'est exactement ça. Je manage des équipes, les équipes sont excellentes, elles savent faire un truc impeccable, et puis un jour, il se passe quelque chose de nouveau, et les équipes ne le voient pas. Eh bien, on n'aura pas appris aux équipes à rester en permanence comme en position de recul sur les compétences. En même temps que savoir faire quelque chose, savoir en douter.
Oui, alors moi je vais profiter, je vais rebondir parce que vous avez parlé donc management stratégique, équipe, manager. Un jour il y a quelque chose qui se passe, les équipes ne savent pas rebondir ou c'est le manager aussi qui peut ne pas savoir rebondir ou peut refuser d'admettre qu'il a eu tort parce qu'aujourd'hui c'est ce que nous voyons, c'est que nous, les managers ont parfois des difficultés à reconnaître qu'ils ont eu tort ou de changer de méthode ou d'ailleurs d'apprendre ou de réapprendre à apprendre, Olivier ?
Oui, bien sûr. On peut le constater. Hein. On le constate tous, mais en même temps, on constate des routines. Hein. J'utilise un terme un petit peu différent. Des routines qui sont aussi devenues des routines d'apprentissage. Hein. C'est-à-dire, il y a la première routine qui est ce que l'on fait, hein, ce que Laurent décrivait parfaitement bien. Et imaginons, et quand je dis imaginons, c'est aussi que c'est possible, de créer une routine dans laquelle on a cette vigilance de tous les jours, dans laquelle on est capable de déterminer presque inconsciemment, c'est une routine aussi, ces signaux chez les collaborateurs, ces signaux dans l'environnement. C'est peut-être changer de niveau, déplacer la routine du faire à cet état de vigilance. Je dirais c'est même très très confortable si on parvient à atteindre ce niveau, puisque l'inquiétude, et qui n'est pas l'anxiété, devient quelque chose de très très naturel avec laquelle on peut vivre très très bien, dans lequel on a même, et c'est là peut-être le danger, on a le sentiment que l'on a créé ces antennes qui sont dans un niveau très différent et qui nous permettent finalement de nous réajuster. Je voudrais venir aussi sur un point, c'est que tout ça, ça peut être extrêmement plaisant. Ça peut être même très, très, très jouissif de toujours progresser, de toujours rechercher des nouvelles situations, des nouveaux concepts, des nouvelles façons de faire les choses. On a parfois l'impression que c'est un effort surhumain. Mais quand le plaisir est présent, l'effort s'accompagne est très positif. Donc c'est peut-être une question de niveau. Est-ce que nous sommes capables de brancher nos routines à un autre niveau?
Je peux ajouter un point rapidement? Moi, je partage complètement ce que dit Olivier, c'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'on peut s'installer dans une posture d'ouverture. Et il n'y a rien de plus obtus que quelqu'un qui prétend et qui se convainc de savoir écouter. Donc il faut être très très prudent là-dessus. Et deuxième point, quand il y a des managers ou voire des dirigeants qui ne veulent pas changer, il faut se méfier de ceci, c'est que l'entourage est en question. On fait changer quelqu'un si on a le courage de lui dire « là, il faudrait changer ». Et l'ennui, c'est que quand il y a des gens très très compétents qui se font admirer, qui sont très bons, on rencontre des situations d'entreprise où la masse des collaborateurs se tait et n'ose pas dire à quelqu'un qui dirige « mais là, ça ne va pas ». Et si quelqu'un est dans le silence, c'est très intéressant à observer, ça vérifie le proverbe français qui ne dit mot qu'on sent, si quelqu'un est dans le silence, la personne va supposer que puisque personne ne vient l'interrompre, c'est qu'elle fait les choses bien. Et donc, il y a une responsabilité fondamentale de tout le monde à oser questionner, contester, ne pas être d'accord, pas par principe, mais à oser donner une parole qui éveille l'autre. On a une forme de devoir d'éveil les uns à l'égard des autres.
Je crois qu'il y a deux points que Laurent mentionnait. Je vais utiliser des termes différents, mais c'est apprendre des autres, apprendre avec les autres, apprendre pour les autres aussi, c'est transmettre ce message. Puis le deuxième point, qui est un point qui me semble essentiel, c'est cette notion d'ego, de défense d'un territoire, qui me semble être extrêmement problématique pour déterminer ce nouveau contour de l'apprentissage. Ça conduit à défendre son ego, défendre sa posture, défendre sa brillance. Finalement, c'est une posture défensive. Et c'est une posture qui nous amène aussi à ne pas prendre de risques. Il y a une phrase de notre ami Taddeï qu'il est intéressant de mentionner. Aujourd'hui, ceux qui ne prennent pas de risques en termes d'apprentissage sont probablement ceux qui prennent le plus de risques. Or, cette posture d'ego dominante nous amène à éviter à prendre des risques. Donc, ces deux composantes me semblent essentielles. L'autre, les autres, et cette conversation, ce qui veut dire que la posture managériale n'est plus une posture hiérarchique, d'autorité, mais une posture de digestion, de relation à l'autre, y compris avec des juniors. D'ailleurs, on voit des pratiques qui sont des pratiques de plus en plus intéressantes dans les entreprises, qui sont justement d'apprendre en fait, de jeunes collaborateurs qui sont considérés un petit peu comme naïfs, mais le naïf pose parfois des questions qui sont excellentes et qui remettent en cause des acquis qui deviennent obsolètes.
Pour en revenir justement au monde de l'entreprise, et je parle même dans plusieurs contextes de notre vie, on est quand même dans une dictature de l'urgence permanente, alors que la fonction routinière du manager consiste à traiter tout ici et maintenant, à protéger, comme vous disiez, le territoire. Comment prendre ces risques? Comment apprendre à regarder ailleurs et dans d'autres temps?
Moi, je peux partager ma recette personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut, et parfois d'ailleurs, je crois qu'elle ne s'applique pas totalement. Ce que j'essaie, c'est de me projeter dans ce que sera mon métier dans 4 ou 5 ans. Et les compétences, les méthodes de pensée qui me semblent être celles que je vais devoir apprendre pour être performant dans cette période-là. Et en même temps, je dois gérer mon quotidien. Mais je me projette dans le futur. Et me projeter dans le futur, ça me permet de, par 15 minutes par jour, d'investir dans le temps long. Et 15 minutes par jour, c'est pas grand-chose. Mais je trouve que c'est très très suffisant, parce que 15 minutes tous les jours pendant 365 jours, ça fait un certain nombre de minutes. Et quand on le fait sur 3 ans, on arrive plus ou moins bien préparé dans cette situation-là. Bien sûr, c'est un pari. Donc, pour éviter que le pari soit un mauvais pari, j'essaie de me donner 3 projets, un chaque année, qui va durer pendant 3 ans. Je limite les risques de faire de mauvais investissements. Est-ce qu'au-delà de ces 15 minutes, ça nécessite un temps de travail supplémentaire? Ben non, parce que quand on se prépare à quelque chose, on met notre attention en bouillonnement. Et finalement, on va recevoir et être capable de capturer toute une série de choses que notre environnement nous envoie sur ces dossiers-là, sur ces challenges-là. Et c'est relativement facile. La difficulté, c'est de prendre 3 chantiers qui seront les bons chantiers. Et c'est là où les discussions avec les collègues, les collaborateurs, avec l'environnement professionnel, nous permet de prendre ces paris-là, à mon sens. Mais c'est ma formule personnelle.
C'est votre formule personnelle.
Laurent, c'est une formule. Elle est très intéressante. Maintenant, elle demande beaucoup de réflexion. Moi, je ne suis plus paresseux. Il y a une méthode très efficace qui est d'observer ceci, c'est que le temps court, c'est l'attente des autres. On est toujours en retard, pourquoi ? On est toujours dans la pression du temps, pourquoi ? Parce que les autres attendent. Le temps, c'est le désir des autres. De temps en temps, se dire qu'on n'en a rien à fiche des autres, pas au sens de l'insolence, mais qu'on peut accepter d'être inutile. Parce qu'on est dans une culture de l'utile, de l'efficace, de délivrer, d'être performant tout le temps, sans cesse pour avant-hier. Ça, c'est du court terme. Et le long terme, ici, maintenant, c'est d'accepter l'idée de dire « je ne sers à rien », et loin d'être grave, ça libère mon horizon et je peux regarder, comme on dit en bon français, the whole picture. Je vois de nouveau l'ensemble des choses. Je ne suis plus le nez sur le guidon. Et donc, cultiver le rapport à l'inutile d'une façon telle qui est, non pas d'être inutile pour être inutile, mais de se dire, il y a certains moments essentiels où il est capital de ne servir à rien. Et là, on réapprend tout. C'est comme si ça réinitialisait le cœur, l'esprit, l'âme, le cerveau, ce que vous voulez.
Je crois qu'il y a aussi peut-être des investissements qui sont intéressants. Moi, j'utilise, en tant que professeur de stratégie, je suis souvent amené à travailler avec les entreprises dans des univers qui sont très, très différents. Le publishing, l'édition en français, les assurances, les produits phytosanitaires, l'agroalimentaire, la distribution. Et ce qu'on me demande, c'est d'être en mesure de comprendre l'environnement des entreprises que je vais accompagner assez rapidement. Et donc, il faut aussi trouver le moyen d'apprendre vite et bien et de se doter d'outils pour finalement réussir cet apprentissage assez rapidement. Souvent, les entreprises me disent « mais finalement, vous ne connaissez rien à mon secteur » et puis elles découvrent 3 semaines plus tard que j'ai réussi à monter en puissance suffisamment pour comprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai une technique que j'appelle les cartes cognitives qui me permet en fait de poser les choses pièce par pièce, de les connecter et de finalement comprendre avec un petit peu plus de facilité ces nouveaux environnements. La bonne nouvelle, il y en a 2 de bonnes nouvelles, c'est que les cartes cognitives sont un outil facile d'utilisation. On l'a testé avec des collaborateurs, ce n'est pas uniquement mon expérience. Donc, certains l'ont utilisé, ils sont aperçus que c'est un outil performant et rapide d'utilisation. Deuxième chose, c'est que ces cartes cognitives, quand on les reprend ultérieurement, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Et peut-être, je tente l'hypothèse, il y a quelques invariants, peut-être un petit peu plus profonds, qui seraient une navigation entre ces signaux faibles qui nous amènent à contempler des transformations, à nous adapter. Mais peut-être il y a un fond, un squelette très très profond de processus, de connaissances, de concepts que j'appelle les invariants et qui peuvent aussi nous guider. La difficulté, c'est quand on navigue pas du tout entre ces 2 dimensions et qu'on reste dans un situation ectoplasmique au milieu de toutes ces choses-là. Je sais pas ce que tu...
Oui, ce que moi tu en penses. En fait, je vais réunir peut-être deux questions en une. C'est parce qu'on a parlé. Donc, quelle est la place de la curiosité et du sens critique justement dans cet apprentissage ou le réapprendre à apprendre? Est-ce qu'il y a de la place pour la curiosité, le sens critique encore?
C'est indispensable, pas encore, plus que jamais. Actuellement, l'information est disponible n'importe comment et n'importe quand sur le web. Et pas seulement, et c'est ce qui est très embêtant, c'est qu'on ne forme pas du tout assez au sens critique. Et c'est important d'observer que le mot de curiosité, il veut dire faire attention, prendre soin. En espagnol, soigner se dit curar, qui est la même origine. Donc ça veut dire soigner les choses, la curiosité. Et je crois que l'accélération du temps dont Vitaline parlait tout à l'heure, elle est très problématique parce qu'on ne prend pas le temps du soin. C'est-à-dire d'accorder la concentration suffisante aux choses. Et on peut revenir, alors pour le coup, de manière plus sérieuse à mon propos précédent, mais qui était très sérieux, c'est que l'inutile, c'est le théorique, c'est ce qui sert à rien. C'est le temps d'observer les choses. C'est au fond ce dont parlait Olivier tout à l'heure, quand il dit « moi je prends un quart d'heure », ça sert à rien son quart d'heure sur le court terme. Ça sert au bout de 3 ans. Mais ça cultive une posture. Mais dans l'immédiat, le soin ne sert à rien. Donc on n'a pas de visibilité du résultat. Et l'ennui de notre culture, c'est qu'on attend tout le temps du résultat. Et du coup, on pourrait formuler autrement l'idée de faire attention aux choses, c'est se donner une obligation de moyen d'une présence, mais sans obligation de résultat d'une performance. Parmi les plus grands succès des actions de très très grands acteurs, tous milieux confondus, il y a des gens qui ne savent pas du tout si leur entreprise va réussir. En revanche, ils se donnent tous les moyens pour tenter de faire quelque chose. Pensez aux artistes, aux femmes et aux hommes politiques, aux grands acteurs de l'histoire, ils ne savent rien à l'avance, rien. Et donc, obligation d'essai, mais pas de résultat, dans un premier temps.
Oui, je vais le dire avec d'autres mots, c'est cette mise en capacité.
D'accord. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, Laurent, l'information est partout, on est dans un contexte d'info-obésité, les tendances se substituent les unes aux autres. Quelles sont vos clés, vos conseils pour choisir ce qu'il faut apprendre?
Alors, Il y a deux choses, parce qu'il y a l'information, et l'information ne rend pas plus intelligent, au contraire, je vous dirais. Oui. Et les statistiques montrent en fait que nos concitoyens passent beaucoup de temps à être sur Internet, face à la télévision, il y a des heures qui sont dépensées, qui sont, je trouve, extravagantes par rapport à ce petit quart d'heure, de travail avec soi-même. Là aussi, je vais partager un certain nombre de choses, mais moi, je me coupe en fait de l'information.
D'accord.
Je débranche.
Voilà, tout simplement.
Je débranche.
Alors, juste pour prendre le relais, Olivier va reprendre, mais juste un point corrélé à ce qu'Olivier décrit, équivalemment pour le coup de mon côté. Mais sur un autre point, c'est que pour savoir ce qu'il faut prioriser, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Et il y a une chose fondamentale à faire pour trier l'information, c'est d'abord de se rendre compte à soi-même. Il y a un très grand philosophe assez peu connu, mais dont le propos que je vais citer, je trouve remarquable, qui s'appelle Eric Weil, et il dit le premier devoir de l'homme est d'être heureux. Et il précise, parce que si quelqu'un de malheureux ne répand que du malheur. Et donc il faut être heureux. Mais pour être heureux, il faut faire quelque chose qui nous convient, qui nous plaît. Pour faire quelque chose qui nous convient, qui nous plaît, il faut encore se connaître. Pour se connaître, il faut se prendre assez au sérieux pour poser les bonnes questions sur l'avenir que l'on veut. Pour poser les bonnes questions sur l'avenir que l'on veut, il ne faut pas faire les choses que les autres veulent pour nous. Il faut tenter de repérer ce qu'on veut soi-même. À partir de là, on trie l'information, mais il n'y a pas besoin de temps et il n'y a pas d'angoisse. Donc la première question, c'est comment on peut donner aux jeunes et aux moins jeunes, vous disiez les anciens, tout le temps les moyens de repérer ce qu'ils veulent. Ça, c'est l'enjeu de toute éducation véritable.
Oui, c'est aussi, enfin, c'est effectivement, c'est comment faire en sorte qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes, éventuellement.
C'est toute la difficulté, je pense, aujourd'hui, justement, dans le monde, notamment de l'éducation. Apprendre aux jeunes à se connaître déjà eux-mêmes pour définir ce qu'ils veulent et vers quoi ils veulent tendre.
Je ne suis pas sûr que j'y sois parvenu moi-même. C'est voilà. Une quête permanente.
On est, oui, je on pense est dans que cette ça, quête. Ouais, ouais. Tout au long de notre vie.
Je reviens et je vais le donner avec d'autres mots. J'ai débranché toutes les informations qui venaient vers moi pour rebrancher des nouveaux canaux où je vais chercher les informations qui me semblent être pertinentes. C'est ce que disait Laurent il y a quelques instants. C'est on peut fonctionner dans un autre sens, au sens directionnel de l'information. J'étais submergé d'informations. Aujourd'hui, je vais chercher les informations dont j'ai besoin. Mais je dois définir mon besoin. Je ne suis pas très sûr que je sois encore une fois prompt à bien me connaître. Par contre, je connais peut-être un petit peu plus mes besoins pour le futur. Enfin, j'espère les connaître. J'espère les connaître.
Mais en tout cas, vous restez ouvert à la possibilité que quelqu'un d'autre vous ouvre.
C'est la fonction de toute rencontre.
Oui, c'est ça.
Les autres nous révèlent à nous-mêmes.
Les autres.
Absolument.
Effectivement.
On va finir par parler de l'amour et de l'amitié.
Oui, là, je pense.
C'est l'amour et l'amitié, il va y avoir de l'agroalimentaire avec un bon vin.
En tout cas, merci Laurent et merci Olivier d'être venu et puis d'avoir discuté avec nous de la capacité de réapprendre à apprendre.
C'était un débat fort intéressant, donc merci à vous deux. C'était Maria Valkotinova
et Vitaline Gomez.
À très bientôt.
Merci.
Merci.